Le début du XVIe siècle voit apparaître la réforme protestante. On peut penser avec quelque certitude que dès 1534, l'idée de la réforme est connue à Saint-Antonin et qu'elle y est même favorablement accueillie. En 1561, les premières tentatives officielles d'implantation de la religion protestante à Saint-Antonin échouent devant l'intransigeance des consuls et des ecclésiastiques. C'est en 1562 que, certainement par la force au début, Saint-Antonin devient une république protestante. En ce mois d'août 1562, les armées catholiques de Montluc sont à Queyllus, pendant que les armées protestantes de Duras sont à Saint-Antonin. 2 jours après le départ de Montluc, Duras met le siège devant Queyllus et prend la ville d'assaut. De là naîtra entre nos deux villes une longue inimitié qui n'est peut-être pas encore complètement éteinte de nos jours et qui rendra si cruelle pour nos ancêtres ces guerres de religion. En 1589, l'accession au trône de France d'Henri de Navarre, prince protecteur des protestants, fait naître à Saint-Antonin un grand espoir qui sera bien déçu quand, pour conquérir son royaume et Paris, Henri de Navarre se convertira au catholicisme. Cet événement, venant après l'assassinat du duc de Guise, rallumera les guerres de religion. Malgré l'austérité imposée par la République protestante et la misère consécutive au conflit, les Saint-Antoninois restent farouchement attachés à la cause protestante. Ils n'hésiteront pas à aller prêter main-forte aux villes amies. Mais ils seront bien seuls quand, le 9 juin 1622, les troupes du roi de France viendront mettre le siège devant Saint-Antonin. Pendant 15 jours, farouchement, l'ensemble de la population saint-antoninoise défendra sa ville. Mais l'ennemi était trop fort et Saint-Antonin succombera pour la Saint-Jean d'été 1622. Monsieur Julien, bonjour.
Bonjour à tous.
Monsieur Julien, avec Christian, nous avons plusieurs fois réécouté les émissions concernant la République protestante. Et nous avons eu envie de vous poser plusieurs questions à ce sujet. Alors, nous vous remercions d'avoir accepté de venir aujourd'hui en direct au studio pour répondre à ces questions.
C'est bien naturel.
Nous écouterons pendant cette émission la cinquième symphonie de Beethoven que Madame Julien a choisie pour illustrer vos propos. Et Christian, je crois que tu peux poser la première question, Monsieur Julien.
Oui, la République protestante est officielle à Saint-Antonin en 1562. Et pourtant, déjà en 1934, vous nous avez dit que des étudiants toulousains, qui étaient en fuite de Toulouse, étaient hébergés à Saint-Antonin, donc ils avaient été bien reçus à Saint-Antonin. Entre les deux, presque un quart de siècle, une génération. Y a-t-il eu là un conflit de génération? Et est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'âge des consuls? Parce que sûrement que les seconds étaient les enfants des premiers. Je ne sais pas quelle était l'importance de l'hérédité à cette époque.
D'abord, si vous permettez, le conflit des générations, ou deux générations, c'est une expression très à la mode aujourd'hui. Mais, à mon sens, elle est vide de sens. Le conflit de génération, vous le comprenez bien, a toujours existé, si l'on entend par là cet impérieux besoin physiologique, tout simplement, qu'ont eu de tout temps, à ce moment-là comme aujourd'hui, les jeunes, de se faire une place dans la société de leur temps. L'évolution des mœurs et le relâchement des contraintes sociales à notre époque, je crois, ont permis l'expression publique de ce besoin, mais sans plus. Voilà pourquoi on en parle tant aujourd'hui. Venons-en au consul alors. Malheureusement, aucun document ne nous permet de préciser l'âge des consuls au XVIe siècle, que ce soit en 1534 ou en 1562. Cependant, si l'on considère deux choses. Premièrement, que les consuls n'étaient pas élus exactement comme on l'entend aujourd'hui. Ils étaient cooptés. C'est-à-dire qu'un consul en place, au fond, choisissait son remplaçant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si l'on considère que la charge de consul était une charge réelle, qui était coûteuse pour celui qui l'assumait, qui exigeait donc qu'il ait une situation lui permettant de l'exercer.
Oui, il ne devait pas être nombreux à pouvoir l'exercer, cette fonction.
Voilà, c'était tout à fait la classe la plus aisée qui pouvait prétendre à la fonction de consul. Donc, si l'on considère cela, on peut en déduire, à mon avis, que les consuls étaient des adultes, et des adultes déjà mûrs, si on peut dire, hein, bourgeois, marchands, artisans, qu'ils étaient en vue aussi, connus. Hein, et donc, s'ils étaient en vue, c'est qu'ils avaient fait des preuves dans leur activité professionnelle. Alors, je pense que c'était des gens âgés. Et par ailleurs, pour répondre à la deuxième partie, il est tout à fait possible, étant donné l'écart de temps, que les consuls de 1562 soient les enfants des premiers. Et d'ailleurs, des noms, enfin, trois, je n'ai que trois noms sûrs, hein, et les noms de Villeneuve, Prat-Bernou et Dardenne. Vous savez qu'il existe encore deux de ces noms, Villeneuve et Prat-Bernou. Dardenne ayant disparu, se retrouvent aussi bien au milieu du XVIe siècle qu'à la fin du XVIe siècle. Plus tard, il apparaîtra d'autres familles qui seront des familles d'immigrés venus de Villefranche ou d'ailleurs. Mais enfin, de toute façon, cela n'autorise personne à parler de conflits et de générations. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a conflit de générations. Les sociétés humaines, vous le comprenez, ce sont des organismes vivants, appelés pour cette raison à évoluer et à changer. Des tensions se créent au sein de tout groupe social, et alors, comme aujourd'hui, des idées nouvelles apparaissent qui mettent en cause l'ordre établi. Alors, ceci pour expliquer pourquoi, en 1534, il y a déjà quelque chose, et puis que ça met tant de temps pour apparaître, vous comprenez ? Entre 1534 et 1562, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une idée nouvelle qui a germé. Exactement que, une idée, pour moi, c'est comme un arbre qui pousse. Une idée qui naît, c'est comme un arbre qui naît et qui va pousser. Et il lui faudra des années pour que cette idée grandisse, se développe et soit adoptée par un nombre important d'individus. Mais tout cela, évidemment, au gré des changements économiques. Et nous sommes justement au XVIe siècle, à une époque de grandes mutations, ça il ne faut pas l'oublier, c'est pour expliquer pourquoi il y a eu ce délai, mais pourquoi ça s'est produit à ce moment-là. Ces mutations ont été préparées d'abord par la guerre de Cent Ans, toutes les guerres entraînent des bouleversements économiques et sociaux, la découverte de l'Amérique, nous l'oublions pas, et la Renaissance. Et alors la réforme, ce mouvement que nous voyons apparaître dès 1534 à Saint-Antonin, va comme ça se développer petit à petit pour atteindre cette ampleur et qu'elle a connue à la fin du XVIe siècle dans notre région. Et je ne pense pas que qui que ce soit ait pu empêcher la réforme au XVIe siècle. Je ne le pense pas.
Monsieur Julien, vous nous parliez du temps que mettait une idée pour mûrir, pour germer. Une république protestante s'instaure dans certaines villes, et puis pas dans d'autres. Alors, on aimerait savoir Quelles étaient à Saint-Antonel les conditions favorables à cette instauration? Et puis pourquoi, au contraire, à Caylus est resté catholique?
Ce n'est pas facile, la question. Il n'est jamais facile de donner des explications objectives au fait que s'installe dans une ville tel régime, ou dans un pays tel régime, et pas dans un autre. Pourquoi a-t-on assisté au développement d'une religion nouvelle à Saint-Antonin et pas à Caylus? Pourquoi le protestantisme a-t-il été florissant à Montauban et pas à Toulouse? Ça, c'est inexplicable. Hein. C'est comme si vous me demandiez pourquoi aujourd'hui telle ville a une municipalité de gauche et pourquoi telle autre a une municipalité de droite. Je crois que c'est à peu près semblable. On ne peut pas donner des raisons précises pourquoi ça se produit comme ça, là et pas ailleurs. Cependant, dans le cas de la réforme, de l'implantation de la réforme protestante, on peut penser que les conditions économiques ont joué un rôle important, sinon déterminant. Il ne faut pas oublier que la bourgeoisie saint-antoninoise, je vous l'avais dit, entretenait des relations commerciales importantes avec des régions très éloignées, et avec Lyon, avec l'Allemagne aussi, qui est la source du protestantisme. Et il faut penser aussi que cette bourgeoisie saint-antoninoise, du fait même qu'elle était aisée, qu'elle était riche, qu'elle faisait du commerce, avait un niveau intellectuel et un esprit d'indépendance peut-être supérieur à celui qu'avaient des petits artisans ou des paysans d'autres localités, et que cela a favorisé l'introduction de la réforme. Je pense ça, que c'est vrai. Il faut peut-être aussi dire, pour le cas de Saint-Antonin, que le comportement des religieux catholiques, et plus particulièrement celui des chanoines du chapitre de la collégiale, je pense qu'il a contribué au développement chez les Saint-Antoninois de ce que nous appellerions aujourd'hui l'anticléricalisme. Anticléricalisme qui, évidemment, provoque des excès, nous en sommes bien d'accord tous. Enfin, pour Saint-Antonin même, ce qui a favorisé le déclenchement du mouvement, ce qui a favorisé l'implantation réelle, c'est le fait que, à Villefranche, qui était une ville plus importante, les protestants avaient essayé de prendre le pouvoir, mais ils n'y avaient pas réussi, et ils avaient été obligés de partir. Et ce sont ces protestants de Villefranche qui sont venus ici à Saint-Antonin. Nous avons par exemple un notaire important à cette époque, il s'appelle Franck, et qui est originaire de Villefranche. Nous avons un homme de loi, Canitro, qui jouera un rôle important dans les guerres de religion, qui sont venus de Villefranche. Donc il y a un petit peu, si vous voulez, la révolution venue de l'extérieur. C'est très à la mode actuellement, c'est un fait ça, naturel. On éprouve le besoin d'aller porter ailleurs ces idées. Alors à Caylus, bon, c'est vrai, à Caylus, la réforme n'a pas pu s'implanter. Et pourtant, en même temps qu'à Saint-Antonin, vers 1560 et 1561, on voit dans les archives communales de Caylus, on relève le passage de ministres, c'est-à-dire de pasteurs protestants qui sont venus prêcher. Donc il y a eu une tentative, mais elle n'a pas réussi. Pourquoi? C'est difficile à dire, mais enfin, Caylus, vous savez, toute révérence gardée, n'avait alors ni l'importance, ni la vitalité de Saint-Antonin. Ce n'est pas faire injure à nos amis de Caylus que de le dire. Caylus, c'était pas une ville, c'était un petit bourg, quoi, à peine. Hein? Ça, c'est une raison. Enfin, une autre raison, c'est qu'à Caylus, vous ne trouviez pas, comme ici, plusieurs communautés religieuses importantes, comme nous avions ici, rappelez-vous, les Cordeliers, les Carmes, les Chanoines du Chapitre. À Caylus, il n'y avait pas ces communautés religieuses, donc la présence de l'Église catholique était moins, si vous voulez, peut-être voyante et peut-être moins pesante. Et puis il y a un détail. Il y a toujours un détail qui est décisif à un moment donné. C'est un détail tragique. Tu as parlé, Patrick, tout à l'heure de Duras. Et oui, de Duras qui prend la ville de Caylus le 22 août 1562. Et vous savez ce qui s'est passé, il a massacré, c'est lui qui l'avoue, comme les catholiques l'avouent, 620 prêtres. 120 prêtres. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y avait 120 prêtres à Caylus. C'était des prêtres qui étaient de Caylus ou qui étaient venus de Saint-Antonin se réfugier à Caylus ou des localités avoisinantes. Mais enfin, il en a massacré 120. Et ça, quand même, ça a dû choquer la population de Caylus. Et je pense que cela a déterminé une sorte de réaction. Et cela a dressé les Caylusiens contre la réforme. Ce n'est que, si vous voulez, la petite chose qui a fait basculer la population d'un côté ou de l'autre. Et puis enfin, il y a une autre chose que nous ne pouvons pas affirmer, c'est que dans tous les événements qui se produisaient ainsi, que ce soit les mouvements religieux, que ce soit les mouvements politiques, il y a le rôle que peut jouer une personnalité considérée, quelqu'un d'important. Il est sûr même qu'à Saint-Antonin, des gens en vue, c'est-à-dire des consuls ou des hommes de loi très 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 estimés, qui avaient beaucoup de prestige, se soient dès le début tournés vers la religion protestante. Tandis qu'à Caylus, ça ne s'est certainement pas produit. Comprenez ? Ce sont des exemples, bons ou mauvais, suivant comment on l'entend. Et c'est cela, peut-être. Mais là, nous n'avons pas de documents qui nous permettent de dire il y a ici une sorte de leader protestant à Saint-Antonin.
Monsieur Julien, il y a toujours eu dans le monde des guerres de religion, qui sont souvent des guerres civiles. On sait qu'elles ont souvent un enjeu économique plus important que le motif religieux. La religion est parfois liée à une certaine conception de l'économie ou de la politique. Est-ce que ces guerres de religion, en France et en Saint-Antonin en particulier, n'avaient qu'un motif religieux ? Est-ce que l'avènement de la République protestante laisser supposer aux Saint-Antoninois de faire de meilleures affaires, un meilleur commerce
Oui, je pense que j'ai déjà répondu en partie à cette question. Enfin, précisons bien. C'est à mon sens, et je ne voudrais offenser personne, la religion, pour moi, n'est pas concevable hors d'un groupe social. La religion, c'est une expression de la société. Et elle a été, au cours des siècles, par conséquent, l'expression de la conscience collective d'un groupe, d'une nation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement par la réponse qu'elle prétend apporter à cette question angoissante que se sont toujours posés les hommes sur l'univers, la vie. L'univers, la vie, quel mystère ! Et sur leurs conditions à eux et leur destin dans cet univers. Voilà pourquoi le pouvoir politique s'est servi toujours du sentiment religieux pour se maintenir en place. Et pourquoi aussi, à l'inverse, l'Église, de quelque nature qu'elle soit, a toujours essayé d'influencer le pouvoir politique pour accroître elle-même sa puissance. Il est donc évident que les guerres de religion ont eu un caractère politique. C'est évident, ça, personne ne le nie. Pourquoi ? Mais c'est que cette sorte de secousse risquait de briser l'unité nationale et qu'elle mettait en cause. Ce sont des princes et des seigneurs et de riches bourgeois qui ont déclenché ce mouvement protestant. Ne l'oublions pas. Elle mettait en cause l'autorité royale. Et quand, après 1629, le mouvement protestant sera maté, on verra se mettre progressivement en place le pouvoir absolu du roi, la monarchie, dites, et rappelez-vous bien, de droit divin. voyez, encore la religion est là-dedans. Et nos consuls ici, à cette époque, on le voit en lisant les textes, avaient, comme tu le disais, tout à fait conscience d'agir politiquement, puisque et ils ont appelé Saint-Antonin la République. La République, c'est eux qui ont créé le mot, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans les textes. Or, qui dit République, c'est la chose publique, c'est le gouvernement par nous-mêmes. Évidemment, en faisant des clauses de style et en disant, nous restons fidèles au roi, bon, mais enfin,
pas du tout,
et on le sent partout. Ah, oui. D'abord, par exemple, ils refusent de payer l'impôt royal.
Oui, en plus.
D'ailleurs, si la réforme n'avait été qu'un mouvement spirituel, hein, un débat d'idées, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu quelques rixes, quelques échauffourées, quelques coups de poing, quelques discussions violentes, mais il n'y aurait pas eu de guerre.
Ce serait pas allé aussi loin.
Absolument pas. Une guerre a un fondement économique et un fondement politique. Et alors, c'est pour ça que les guerres de religion ne sont pas des guerres uniquement pour la religion. Elles sont des guerres pour prendre le pouvoir, pour que celui de tel parti puisse avoir le pouvoir.
Oui, et vous nous avez dit que les... que les Saint-Antoninois commerçaient beaucoup avec l'Allemagne.
Voilà.
Alors, est-ce que ça leur, comme le mouvement protestant venait d'Allemagne, est-ce que ça leur permettait d'avoir, enfin, de penser faire davantage de commerce?
Eh bien, il est sûr que toujours on essaie d'adopter dans son pays le régime qui sera le plus favorable au développement économique. Hein, ça, c'est sûr. Je le crois. Je crois qu'ils avaient cette idée-là et que les protestants d'Allemagne leur étaient beaucoup plus sympathiques à eux. Que les catholiques d'Espagne, par exemple, vous voyez, avec qui il y avait peu de relations, oui.
Oui, les consuls protestants ont eu bien du mal, puisque c'était en permanence la guerre, pardon. Mais est-ce que, quand même, on peut penser qu'ils ont donné à l'économie une orientation différente à Saint-Antoine de celle du pouvoir catholique précédent?
Non, je ne le pense pas. Ce n'était pas possible d'ailleurs dans les conditions de l'époque, étant donné qu'on était en permanence agressés, qu'il fallait se défendre. On ne peut pas donc envisager qu'ils aient pu concevoir une organisation économique nouvelle. Hein. Je ne crois pas là. Ce n'est pas allé jusque-là. Autrement dit, ce mouvement qui a été étouffé dans l'œuf. Et nous ne savons pas ce qu'ils auraient pu faire au point de vue économique s'ils avaient réussi. Ils auraient peut-être fait ce qu'ont fait les protestants en Hollande, en Allemagne, le régime qu'on a connu. Mais de toute façon, ils n'auraient pas pu créer grand-chose d'original. Nous vivons toujours dans le siècle où nous sommes et le contexte économique reste à peu près général partout dans une zone donnée du monde. Hein. Je ne crois pas qu'ils aient pu faire grand-chose de sensationnel.
Certains de nos auditeurs ont peut-être vu à Caylus un son et lumière, ayant pour thème les guerres de religion. Ils auront pu remarquer que les auteurs de ce son et lumière avaient donné aux événements un éclairage différent de celui que vous lui avez donné dans cette série d'émissions. Et on peut se demander si vous n'avez pas un peu fait la part belle aux protestants, monsieur Julien. Qu'en pensez-vous?
Voilà la question que j'attendais parce qu'elle m'a été déjà posée par différents auditeurs. Oui, incontestablement, j'ai fait la part belle aux protestants. D'abord, je ne suis pas un historien, mais même si j'étais un historien, je crois que j'aurais agi ainsi. Parce que la richesse des documents que j'ai consultée était telle qu'elle a entraîné chez moi comme un dédoublement. Je n'ai plus été moi-même lisant ces textes si vivants. Je me suis transporté au milieu de la ville avec ses habitants au XVIe siècle. J'ai partagé leur vie. Réellement, là je le dis sans forfanterie, j'ai partagé leur enthousiasme, j'ai vécu leurs angoisses, leurs peurs, et pour finir, leur immense détresse, en ce 24 juin 1622. Non, je n'ai pas été objectif. Parce que je n'avais pas les moyens de l'être, de toute façon, faute de documents adverses, si l'on peut dire. Mais aussi, parce que je ne crois pas à l'objectivité, comme on dit. Il y a toujours deux façons de lire un texte. Et même le siège de Saint-Antonin, j'aurais pu le lire différemment et j'aurais présenté les choses différemment. Donc, ne nous abusons pas. Chacun de nous, quoi qu'il fasse, quand il pense, quand il lit, quand il parle, ne fait qu'exprimer la complexité de son esprit, modelé par ses origines, sa famille, le milieu dans lequel il vit, son éducation, et aussi sa sensibilité, je crois que ça c'est important. Pour ma part, et quel que soit l'effort que je puisse essayer de faire, ma sympathie est toujours allée, et j'en suis sûr, elle ira toujours pour les vaincus. Et à cette époque-là, c'était les protestants qui étaient vaincus. Et je dois, pour me faire pardonner mon esprit partisan, affirmer ici que j'aurais sans doute adopté la même attitude partisane si c'était agi de catholiques vaincus. Il n'y a pas eu pour moi de choix idéologique, spirituel. C'est ça ma faiblesse. Mais que les esprits forts se gardent de triompher. À mon sens, quand il s'agit de l'histoire, qui est au fond, qu'est-ce que c'est l'histoire ? C'est la vie. Ce sont les actions des hommes. Ben alors cela, hein, en matière d'histoire, celui qui se targue d'une totale objectivité, à mon sens, c'est un sot, ou alors un imposteur. Je pense en outre que seules les grandes passions peuvent engendrer, créer, déterminer, susciter de grandes actions dont est incapable la seule froide raison. Quand on est froid, raisonné, à mon avis, on fait rien de bon. Hein. Évidemment, cela comporte des risques et des excès, mais c'est inévitable. Cela dit, prendre parti n'est jamais facile, quoi qu'on pense. Car, et Jean Rostand l'a bien dit, on s'annule en s'isolant, on s'avilit en s'agrégeant. Alors, que faut-il faire ?
Oui, puis de toute façon, Monsieur Julien, je crois qu'il faut bien préciser une fois de plus que notre émission n'est pas un traité d'histoire.
Voilà.
Vous découvrez les archives Saint-Antonin, vous les faites partager aux auditeurs, c'est-à-dire que vous essayez de leur montrer la vie de nos ancêtres,
voilà,
à une période donnée. Et à cette période-là, c'était des protestants, donc ils voyaient leur cause.
Voilà.
Avant tout, je pense.
C'est ça. Au fond, je vis avec eux et j'adopte leur... Bon, même je suis comme eux injuste envers les catholiques, certainement. Et je ne peux pas faire autrement. Je suis dans le document, je suis chez eux, voilà.
Voilà, et ça explique très bien que, bon, si on va à Caylus, eh bien, ils voient l'histoire de cette période un peu différemment de nous.
Mais inévitablement, parce qu'ils ont des documents qui leur présentent les protestants comme des perturbateurs et qu'il faut évidemment empêcher de nuire. Et je crois que leur position est tout à fait acceptable. Je ne la critique pas du tout. Je crois qu'ils ont raison d'avoir présenté leur son et lumière comme ils l'ont fait.
Les termes d'huguenots et de papistes sont apparus à quelle époque ?
Très tôt, très tôt, vers le milieu du... ça, c'est une question alors là, à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Et je ne me souviens pas du tout de l'étymologie du mot huguenot ou huguenot, hein, et, en languedoc, los duganels. Certains pensent que l'étymologie vient du hibou, mais je n'en suis pas du tout sûr de ça. Hein. Mais en fait, ça a apparu très tôt.
Pendant ces guerres de religion, monsieur Julien, vous nous avez beaucoup parlé de la rive droite de l'Aveyron. Et la rive gauche, à quoi ressemblait-elle?
Oh ben, la rive gauche, regardez-la, hein, c'est la muraille d'Anglard, hein, c'est cette falaise qui ferme notre horizon et qui limite notre vue et la portée de notre voix aussi. Ce qui fait qu'elle elle a toujours rendu et elle rend encore un peu difficile l'approche et l'accès de la ville. Le danger, le vrai danger pendant les guerres de religion, comme avant, pendant la guerre de Cent Ans, il est toujours venu de l'autre côté, hein, il est venu du côté de la rive droite. Mais en fait, cela ne veut pas dire qu'elle ne participait pas à notre vie, et nous nous sommes toujours et souvent affrontés là-haut avec le commandeur des Templiers de Vaour, avec les gens de Corde, principalement. Et d'autre part, on le sait de façon sûre, c'est que les troupes royales, quand elles sont venues investir Saint-Antonin, il en est une partie qui est descendue du plateau d'Anglard, hein, par la vieille côte de Peine, notamment Thémines, dont nous parlerons plus tard. Et nous savons aussi que les Montalbanais, venus à notre secours un peu tard, le 25 juin, les 50 Montalbanais, une cinquantaine, et sont arrivés par la côte de Peine, là-haut, et qui se sont fait prendre, là-haut, à Kumbo-Luzen, juste au bout de la côte, et qui se sont fait massacrer par les troupes royales. Donc, la rive gauche, elle participait à notre vie, mais de façon moins importante que la rive droite, bien sûr.
Thank you.
Monsieur Julien, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que selon qu'on se place d'un bord ou de l'autre, on voit l'histoire de façon un peu différente. On peut penser que pendant longtemps, et vous nous l'avez montré, les protestants ont beaucoup souffert de l'intolérance des catholiques. Mais est-ce que c'est pas un peu la même attitude de leur part qui est à l'origine de leur perte?
Ah là, je ne le pense pas du tout. Encore une fois, la défaite protestante s'inscrit dans un contexte général et national de politique. Nous l'avons dit, il faut bien le répéter. Hein. C'est-à-dire la lutte pour la conquête du pouvoir, la volonté du roi d'affirmer son pouvoir, du roi Louis XIII, entendons-nous, et de devenir le maître, poussé en cela, encouragé en cela, beaucoup aidé par Richelieu. L'intolérance individuelle est toujours regrettable, mais elle ne peut engendrer, je crois l'avoir montré, que des revanches, hein, des mouvements de revanche de portée réduite. Mais jamais, et quoi qu'on en pense, on ne peut pas affirmer que ce sont les excès des protestants qui ont déterminé ensuite la réaction qu'il y a eu contre eux. Non, c'est toujours une question de pouvoir. Tant qu'on a jugé les protestants capables d'ébranler le pouvoir royal, eh bien on les a persécutés. Et comme on sentait qu'ils étaient toujours capables de le faire, on les fera disparaître, ou du moins on fera disparaître leur religion en 1685. Et cela m'est apparu très clair parce que, en lisant mes documents d'archives, vous le comprenez bien, je ne me suis pas contenté de lire les documents d'archives. Et cela m'a amené à raccrocher tous ces événements saint-antoninois à l'histoire générale. Faut pas croire qu'on ne voit que ça. Et je dis que ça m'a beaucoup servi à moi parce que, contrairement à ce que vous pourriez penser, je connaissais peu de choses sur les guerres de religion en France. Et maintenant, je suis assez fort, je suis assez calé. Je sais qu'il y en a eu 8, je peux vous donner des dates, etc. Voilà pourquoi c'est très important la consultation des documents locaux. Pourquoi l'histoire locale, à mon sens, est fondamentale. Pourquoi elle devrait être à la base de l'enseignement de l'histoire dans les écoles. Parce que c'est seulement à travers l'histoire locale que l'on peut prendre goût et connaître l'histoire nationale, et qu'il ne faut pas négliger l'une au profit de l'autre et réciproquement. Et là, je réponds à un de mes amis avec qui j'ai eu une discussion assez âpre il y a quelques jours. Il me disait, au fond, c'est très bien vos émissions, vous comprenez, mais ça ne concerne que Saint-Antonin, et ça c'est sans importance. Hein. Et puis vos protestants, c'était des perturbateurs de l'unité nationale. Heureusement qu'on les a mis à la raison. Qu'est-ce que vous voulez? Non, ce qui compte dans un pays, c'est le pouvoir. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui conduisent la France. Ouais. Mais je lui dis, mon pauvre, au XVIe siècle, le sentiment national n'existait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de patriotisme comme nous le pensons aujourd'hui. Ah, puis écoutez, non, si vous aviez pu avoir dans l'histoire locale, là, de les guerres de religion, vous n'avez pas un grand homme. Et je lui dis, non, il n'y a pas eu un grand homme, c'est vrai. Eh bien, moi, que voulez-vous? Moi, ce qui compte, c'est Henri IV, c'est Richelieu, c'est Sully, c'est Louis XIV, c'est Fouché. Ah, ben oui. Voilà deux conceptions différentes. Pour lui, et l'histoire, ce sont les hommes qui la font, hein. Et tandis que moi, je pense que c'est le contraire, hein.
Oui, la servante de petit maître qui était sur les remparts avec sa faux,
voilà.
C'était bien sympathique aussi.
Moi, je crois. Hein, elle a participé à l'histoire dans une certaine mesure.
Oui. Vous parliez, Monsieur Julien, d'apprendre l'histoire dans l'enseignement, donc à partir de l'histoire locale.
Oui.
C'était aussi un de mes vœux, je pense que ce serait intéressant. Seulement, malheureusement, peu de villes ont une histoire aussi intéressante que la nôtre, certainement.
Oui, mais je pense que... ce n'est pas sûr, comme dit Christian. Tout est question de curiosité. Il y a des documents qui dorment dans des armoires, certainement partout. Je pense que tout village, si on pouvait s'y mettre, si on en avait la curiosité et le temps et le loisir, révélerait des choses absolument insoupçonnées. Et c'est d'abord en partant de là, à mon sens, qu'il faudrait procéder.
Thank you.
pendant le siège, vous avez dit qu'on avait appelé les Montauban en renfort. Il est ensuite remporté dans le journal d'Antoine Aymard qu'il avait été dit à Montauban que Saint-Antonin n'avait pas besoin de renfort parce qu'il y avait déjà trop de monde et peu assez de vivres. Et peut-être on peut penser qu'il s'agissait d'une manœuvre catholique pour empêcher les renforts de venir à Saint-Antonin, qu'ils avaient fait propager ce bruit à Montauban. Et est-ce que si les Montalbanais étaient venus, ça aurait changé l'histoire?
Oui, pas trop de mais il faut pas faire trop de machiavélisme. Hein, il faut pas accuser toujours l'autre d'avoir fait un coup fourré. La pénurie de vivres est prouvée. Parce que ce n'est pas seulement pendant les 15 jours du siège que Saint-Antonin a été bloqué, on peut dire que c'est pratiquement pendant tout le mois d'avril et tout le mois de mai. Et cela, on a manqué de vivres malgré les précautions prises, parce que les consuls, déjà au début d'avril, avaient eu soin de faire des approvisionnements très importants de blé, notamment, et ils avaient pour cela emprunté, tenez-vous bien, 6000 livres à un nommé monsieur de Sessac pour acheter tout ce blé. Non, je pense que les Saint-Antoninois et leur gouverneur militaire, parce qu'il y avait ici un gouverneur militaire qui commandait la garnison, ils se croyaient assez forts et à l'abri dans leur forteresse, qu'ils s'étaient employés pendant 2 mois aussi, en avril et mai, à renforcer d'une façon considérable. Alors ils avaient une foi entière, d'autre part, dans leur cause. Ils étaient sûrs que leur cause était juste. Alors voilà, chez eux, une sorte d'exaltation, de folie, qui les aveuglait sur leur capacité de résistance. Mais rien, cette fois, n'aurait pu empêcher la victoire de l'armée royale. Enfin, songez qu'il y avait là 30 000 hommes autour de cette pauvre petite ville. Et même si l'assaut du 21 juin, qui a été décisif, avait échoué, on le sait, nous le savons, par les mémoires de Bassompierre, que le roi et son armée auraient attaqué la ville, non pas du côté du Tour du Pré, mais par la rivière de l'Aveyron. Là. C'est là la faute qu'a commise Condé au départ, c'est d'attaquer la ville par le nord au lieu de l'attaquer par la rivière. Parce que d'après Bassompierre, le maréchal de Bassompierre, en l'attaquant par la rivière, en vidant le bief de Romégos, l'armée royale passait à pied sec jusqu'au pied des murailles et des moines ici, et emportait la ville en 2 jours. C'est Bassompierre qui l'a dit ça. Ah, mais le cours de l'histoire, donc, n'aurait pas été changé, même si les Montalbanais étaient venus à notre secours. La preuve, c'est que toutes les citadelles protestantes, l'une après l'autre, à partir de ce moment-là, succomberont, comme La Rochelle, qui était autre chose, comme force que Saint-Antonin, et puis comme Montauban, qui elle, capitulera son combat en 1629, c'est pas à leur gloire, ça. Et puis, on peut toujours, comme je le disais, réécrire l'histoire avec des si. Mais l'histoire, c'est la vie, et c'est celle, et c'est la vie des hommes. Elle s'écrit pas avec des si.
Et oui, l'histoire ne s'écrit pas avec des si, et pourtant, j'aimerais bien en mettre un autre de si, monsieur Julien. Les 2 derniers dimanches, vous nous avez fait visiter les archives de Saint-Antonin, et vous nous avez montré combien leur conservation est parfois aléatoire. Et j'aimerais que vous essayiez d'imaginer ce que l'on connaîtrait du siège de 1622, si, par malchance, on ne possédait pas ce merveilleux document qu'est le journal d'Antoine Aymard.
Certainement, on n'en connaîtrait rien. Parce que Saint-Antonin, à l'échelle nationale, c'est quand même pas une grande métropole. Peut-être quelques érudits, quelques fouillards d'archives, quelques curieux. Connaîtrait-il ce qu'en dit le maréchal de Bassompierre, qui était un des généraux qui conduisait l'armée royale devant Saint-Antonin, ancien général d'Henri IV, il était du côté du roi, bien sûr. Alors il a écrit des mémoires, le maréchal de Bassompierre, que nous aurions pu lire d'ailleurs conjointement avec le journal des Mars, pour avoir, si on peut dire, deux aspects de la chose. Mais cela ne nous intéressait pas, parce que les Saint-Antoninois pour Bassompierre n'existent pas. On saurait que le roi, le 20 juin, est descendu de la colline de Pejdax jusqu'au pied, dans la plaine, il dit, dans la plaine, c'est-à-dire au niveau de la brasserie, par là, hein, au pont des Estafets, et qu'il est venu, là, avec des sergents et une escouade de soldats, sommer les Saint-Antoninois de se rendre à Sa Majesté. Hein. On lui a répondu par un coup de canon. Un coup de canon, alors chargé avec des sortes de boîtes remplies, c'était des obus à billes, si on peut dire, à cette époque-là, avant l'heure, vous voyez. Et alors, une de ces billes, grosse comme un œuf, dit Bassompierre, passa sur le chapeau du roi et alla tuer quelqu'un derrière lui. Autrement dit, il l'a échappé belle, Louis XIII. Excusez-moi, les gens qui ont un grand culte pour Louis XIII, là, j'ai été irrévérencieux, hein. Et de même, voyez, quand les Saint-Antoninois, le 24 juin, sont malheureux, écrasés, pillés par les soldats, meurtris, et qu'est-ce que vous croyez qu'il fait, Bassompierre? Eh bien, il dit, nous allâmes avec Sa Majesté vers Castelnau de Montmirail, où nous nous amusâmes à lancer l'assaut à travers les champs pour nous entraîner. Ils font de l'entraînement. Les Saint-Antoninois, leur sort leur importe peu. Alors, encore une fois, si nous n'avions pas eu le journal des Mars, nous ne connaîtrions que le point de vue des dirigeants, des grands. C'est ça, c'est cette histoire-là qu'on nous a toujours enseigné. Pour une fois, cette fois, hein, nous avons le témoignage vécu d'un vaincu. Ce n'est pas fréquent, le témoignage d'un vaincu. Voilà pourquoi il y a tant d'idées reçues, et voilà pourquoi tant de gens aujourd'hui encore admirent Napoléon, Louis XIV, qui restent pour eux des génies. Des génies nationaux, en dépit de leurs défauts, de leurs fautes, et je n'hésite pas à le dire, de leurs crimes.
Et oui, et vous nous disiez, il ne faut pas écrire l'histoire d'ici. Pourtant, vous écoutez parler, encore une fois, on se dit, si par hasard Louis XIII avait été tué lors de ce coup de canon.
Ah ben voilà.
Mais là, l'histoire de Saint-Antonin ne serait plus inconnue.
Mais je pense que les guerres de religion auraient repris à ce moment-là, ce qui n'aurait pas été un bien non plus quand même.
Et oui, Louis XIII n'est pas mort à Saint-Antonin. Et de suite après le siège, il y avait encore des célébrations clandestines du culte protestant. Quel a été le sort réservé aux protestants qui n'ont pas voulu se convertir à la religion catholique?
Attention, elles n'ont pas été clandestines, ça c'est plus tard. Hein. Et le culte protestant, tout de suite après le siège, a continué, officiellement, et dans des conditions parfois difficiles. Et cela jusqu'en 1685. Mais si vous voulez, ça c'est une autre affaire, nous en reparlerons dans une prochaine émission. Hein. Ça n'a pas été clandestin, le culte protestant, il a continué officiellement.
Mais même immédiatement après le siège.
Immédiatement après le siège, voilà par exemple ce qu'a décidé Louis XIV, décidément Louis XIII, il a décidé que le temple des protestants serait donné aux catholiques et que les protestants devraient dire leurs prêches, leurs offices dans une autre salle. Et immédiatement, on leur a donné le poids public derrière le musée actuel. Là.
Hein, c'était pas un peu incompatible ça, parce que le but officiel de la guerre, c'était de prendre, d'anéantir les protestants.
Le pouvoir protestant, pas les protestants, parce que Louis XIII était quand même le fils d'Henri IV, hein, et il était obligé aussi d'appliquer un édit célèbre, l'édit de Nantes, qu'il n'a jamais révoqué d'ailleurs. Et donc, Louis XIII, lui, il a continué la politique de son père au point de vue religieux. C'est-à-dire qu'il a, il le dit bien dans des lettres patentes dont je donnerai connaissance, qu'il laisse le libre exercice de leur religion à ceux qui sont de la religion prétendue réformée. Ça, c'est très clair, hein, très précis.
Monsieur Julien, il y avait beaucoup d'armes à Saint-Antonin pendant ces guerres de religion. On n'en conserve qu'un canon, vous nous avez dit, que nous appelons la couleuvrine. Alors, on aimerait bien savoir que sont devenus les autres. Oui, et puis au sujet de cette couleuvrine, qu'est-ce qui autorise nos ennemis de Caylus à revendiquer sa possession?
Oui, mais là, il y a de quoi rire ici maintenant. Bon, d'abord, soyons clairs, une ville est prise, c'est une forteresse, c'est une armée en déroute, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez aujourd'hui encore, quand on s'empare d'une place forte, quand on s'empare d'une armée, on fait la collecte de toutes les armes. C'est ce qu'a fait Thémines. Dès que la ville a été prise, on a ramassé tout. Et attention, il fallait pas en cacher dans les maisons, hein, parce qu'il y en a qui ont subi des sévices pour ça. Canon, mousquet, arquebuse, tout a été emporté par Thémines vers Agen. Il n'est rien resté du tout. Même pas un canon, et même pas la couleuvrine. Alors ça, c'est une plaisanterie. Et là, je vais décevoir beaucoup de gens, je le sais bien, oui. La couleuvrine, d'abord, c'est pas une couleuvrine. Une couleuvrine, c'est un canon déjà important. Ça, c'est un petit canon de fantaisie, dont je ne suis pas sûr qu'il date du XVIe siècle. Je pense plutôt du XVIIe siècle, et qui a sans doute, qu'on a autorisé les Saint-Antoninois à avoir pour tirer les coups de feu, les coups de canon à la veille de la fête de Saint-Antonin de septembre. Et alors là, c'est un mystère pour moi, je ne comprends pas pourquoi il y a cette sorte de rivalité entre Caylus et Saint-Antonin pour ce petit canon. Je ne sais pas d'où ça vient. Nous possédons une chanson, aujourd'hui nous n'avons pas le temps, une pièce de vers mise en musique, et sur la couleuvrine que les Caylusiennes nous ont prise, que nous leur avons reprise, on l'a même emmenée à Montauban, enfin c'est quelque chose d'une épopée. Mais qui sait ça, c'est pas une grosse farce? je crois que si, que c'est une farce. Tout a été emporté donc des armes et il n'est rien resté. S'il nous reste quelques armes aujourd'hui, ce sont des fusils à pierre qui datent de la Révolution seulement.
Monsieur Julien, juste un mot. Je crois que savoir que c'est la réponse, enfin que la réponse sera apportée dans les prochaines émissions. Mais vous nous avez dit qu'après le siège, le roi demandait 300 000 francs à Saint-Antonin.
100 000 livres. 100 000 livres.
C'était 300, puis ça a baissé à 100.
Non, 100 000. Ce sont des écrits qui portent 300 000 par erreur. Hein. Le chiffre officiel, c'est 100 000 livres, 100 000 francs.
Est-ce qu'il y a moyen d'imaginer quelle somme ça représenterait aujourd'hui?
Bon, eh bien, vous ferez le calcul pour la prochaine fois. Je vais vous dire qu'un cheval valait 40 livres. Un cheval valait 40 livres. Faites les divisions et vous verrez. Nous en parlerons la prochaine fois.
D'accord. Et alors, pendant cette république protestante à Saint-Antonin, est-ce qu'il y avait une vie associative dans le village, dans Saint-Antonin? Est-ce qu'il y avait un club de boules, de quilles, de trucs comme ça? Comment vit
La vie associative, c'était...
Ou c'est une conception tout à fait moderne?
C'est, chose, à mon avis, oui, c'est une conception tout à fait moderne. Et la vie associative, je pense, est née en France vers la fin du XVIIIe siècle, et avec la Révolution surtout, se sont créés les fameux clubs dont on parle tant, hein, les Jacobins, etc., Société Populaire, etc. C'est là qu'est née la vie associative, c'est-à-dire le rassemblement en groupe d'individus ayant même opinion, ou même but, ou même tendance. Et à cette époque-là, les guerres de religion, non. Il y avait la rue, il y avait les métiers, il y avait la vie dans la rue, il y avait la vie dans les ateliers, les parlottes des femmes, les rassemblements à l'église ou au temple, et c'était ça, la vie associative. Et aujourd'hui, comment voulez-vous qu'il y ait de la vie? Les rues sont désertes. Il n'y a pas de vie dans les rues, que ce soit chez nous, à Saint-Antonin, ou même dans une grande ville. Alors, à notre époque, pour pallier cette carence de contact des hommes, on crée ce que nous appelons la vie associative, qui se développe anarchiquement. Il y en a, à Saint-Antonin, il y a 30 associations, vous vous rendez compte. Mais ces associations, et quel que soit leur mérite et leur intérêt, elles ne réussiront jamais à recréer la vie sociale bouillonnante d'autrefois. Un monde des morts, un autre monde né, et qui ne sera ni pire, ni meilleur à ce niveau-là que les mondes que nous avons pu connaître à travers l'histoire.